Bonjour, c'est Bernard Lehu. Bienvenue dans cet épisode exceptionnel de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, en version hors série, pour partager avec vous chaque semaine, dans leur intégralité, des entretiens avec des grands témoins, avec celles et ceux qui font l'actualité. Dans cet épisode, je vous propose une rencontre avec Catherine Pancol. Elle vient de publier son nouveau roman, La mariée portait des bottes jaunes, aux éditions Albin Michel. Et l'écrivaine retrouve ici, avec bonheur, son genre de prédilection, la saga familiale, en l'occurrence les Berléac, riches propriétaires d'un grand vignoble de Bordeaux. Alors comment sont nées l'idée du livre et son titre? Comment Catherine Pancol s'est-elle documentée sur les us et coutumes de ces grandes dynasties bordelaises et sur le travail de la vigne? Où va-t-elle chercher les personnages qui animent son roman? Autant de questions auxquelles la romancière des yeux jaunes des crocodiles, de la valse lente des tortues ou de Muchachas, pour ne citer que quelques-uns de ses grands succès, répond avec la vivacité et l'humour qui la caractérisent. Catherine Pancol, bonjour.
Bonjour Bernard.
Ma première question, elle est toute simple, mais c'est une alchimie qui me fascine tout le temps. Qu'est-ce qui donne naissance à un livre, à un roman? Et donc ici, d'où vient cette mariée qui portait des bottes jaunes? Voilà, quelle est l'idée qui a germé, qui a donné naissance à ce nouveau roman, Catherine Pancol?
Alors, moi j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir, moi je ne peux que constater, c'est-à-dire je ne sais pas comment ça se passe, mais je sens, je suis allée très souvent à Bordeaux, parce qu'il y a la grande librairie Mola qui organise beaucoup de signatures, de conférences, de conférences dans les châteaux,
et quand on pénètre les châteaux du vignoble bordelais,
et je me suis rendu compte que c'est un monde très fermé, avec ses codes, ses coutumes, ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et une vie grouillante souterraine, avec un aspect très Downton Abbey. Vous voyez, tout le monde, les enfants vous voient leurs parents, quelquefois les parents vous voient les enfants, il y a des grandes salles à manger, des grands repas de famille, des candélabres, enfin, il y a vraiment, qui nous a fait rêver quand on regardait Downton Abbey. Et je me suis dit, c'est un univers enchanté, c'est ça. Et qui paraît très très loin, vu qu'il ne s'offre jamais. C'est des gens très pudiques, très distants, comme si c'était pas bien de faire parler d'eux. Et on peut penser là à l'héritage anglais, protestant. Il faut jamais montrer ni sa richesse, ni ses biens, ni ses dons. Et j'avais l'impression de pénétrer sur un autre continent. Et du coup, ça m'a intéressée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à poser des questions. Vous me connaissez?
Bien sûr.
Je furette.
Toujours
fureté.
Côté journaliste que vous n'avez jamais oublié.
Que j'aime beaucoup. Et j'adore apprendre des choses en écrivant. C'est comme si je faisais des reportages et après je fais des histoires avec ces reportages. Et voilà. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, au milieu de tout ça, alors là, c'est là le grand mystère. Il y a une scène qui arrive, qui est souvent la première scène. Et c'était une voiture sur une départementale, se dirigeant vers un château. Une femme, un homme, deux enfants à l'arrière. Et on est en 2010.
Pourquoi 2010?
2010 parce que ça a été la plus belle année pour les ventes de vin à Bordeaux. Ouais. Ça a été le moment où vraiment la France régnait avec ses châteaux bordelais. Vraiment. Et où la France est devenue la plus forte dans le monde entier. Parce qu'on était très souvent dépassés par les Italiens.
Les Italiens, oui.
On se faisait la course. Et il n'y avait pas encore tous ces vins australiens, néo-zélandais, chiliens, argentins, qui maintenant envahissent quand même le marché, même si c'est des quantités pas très importantes. Mais quand même, et ça monte chaque année. Parce que ces gens-là font un vin très standardisé, ouais. Alors que... En Bordelais et en Bourgogne aussi, ce sont encore des artisans. Alors même si c'est sur des centaines d'hectares, mais ce sont des artisans. Et voilà. Et tout d'un coup, j'ai voulu pénétrer dans cet univers, ce qui fait que j'avais une amie dont le cousin avait une propriété viticole, un château. Et je lui ai demandé, est-ce que tu peux demander à ton cousin si je peux m'installer chez vous et passer 8-10 jours au moment des vendanges, au moment de l'assemblage, au moment des primeurs, en été, pour suivre la vie de la vigne. Parce que j'y connaissais rien. Hein. Je savais distinguer un bon vin d'un mauvais vin, à peu près un Bordeaux d'un Bourgogne, mais c'est tout. Je connaissais pas du tout. La difficulté de la documentation, c'est qu'il faut pas ennuyer le lecteur avec la documentation. Donc il faut arriver à faire une synthèse de tout ce que vous apprenez et le transformer en décor, en odeur. Il faut digérer la culture qu'on a apprise et la remettre en scène de manière très douce, sans ennuyer. Et d'ailleurs, moi, j'ai une règle. Quand je me relis, et Dieu sait que je me relis et que je me relis, dès que je m'ennuie, je coupe. Vous voyez ? Ce qui fait que j'arrive à dresser un décor sans que le lecteur s'en aperçoive, et j'arrive à glisser des informations qu'il va absorber sans s'en apercevoir. Par exemple, j'ai suivi un chef de culture, c'est-à-dire celui qui va décider quand est-ce qu'on récolte le vin, et je le regardais, c'est-à-dire que lui, il prend le raisin, il commence à les gratiner, après il suce la peau, comme ça, et il sait s'il va vendanger le lendemain, dans 48 heures, le matin ou l'après-midi. Enfin, et ça, c'est fascinant quand même.
Oui, on sent tout votre enthousiasme quand vous en parlez. C'est une scène qu'on retrouve d'ailleurs dans le roman avec Ambroise et Émile qui, dans la famille Berléac, donc, est justement le responsable de l'instant où il faut décider de la vendange. Évidemment, toutes ces grandes familles bordelaises, on se dit, mais pour vous, c'est formidable parce que c'est une mine à histoire, là. Il n'y a plus qu'à plonger, à laisser partir, s'emballer votre imagination.
C'est exactement ça, Bernard. Exactement. C'est-à-dire que quand je suis allée passer d'abord le premier séjour, c'était à peu près 10 jours, au moment des vendanges, et que j'ai regardé ce monde, parce que vous savez, on a adoré Downton Abbey en France, parce qu'il y a les aristocrates et les domestiques, et ce monde interfère quand même. Et bien dans le Bordelais, non seulement il y a toutes ces castes, c'est un système de castes, mais il y a aussi les domestiques, forcément. Et puis, il y a les gens qui travaillent, les journaliers, parce que toute l'année, on paye des ouvriers pour nettoyer la vigne, pour l'éclaircir, pour surveiller le raisin, le mildiou, les champignons, enfin, vous voyez tout ça. Et donc, ça fait des classes sociales, et c'est passionnant quand on mélange les classes sociales, parce que ce qui tient toutes ces classes sociales, c'est l'amour de la vigne. C'est que le seigneur du château, il peut être en gros pantalon velours côtelé, en train de tâter son grain de raisin avec son chef de culture et avec le journalier qui est là avec sa hotte et qui attend. Vous voyez, donc c'est les histoires transversales que ça permet, et voilà. C'est ça qui m'a passionnée, en fait.
Alors ici, il y a au cœur de l'Inde, alors il y a des intrigues multiples, on va y revenir, mais il y a justement une espèce de Roméo et Juliette, qui est l'histoire d'amour qui va se nouer entre Muriel et Lewis. Là, on est vraiment au cœur de cette confrontation entre les classes sociales.
Et les pays étrangers, parce que Lewis, il est canadien-anglais en plus, il vient de Montréal. Et alors, c'est un taiseux, un passionné.
Qui est journalier.
Il arrive comme journalier à Berléac.
Muriel est belle.
Et la fille du château.
La fille du château, donc l'héritière en puissance.
Oui, et ils vont tomber amoureux, et elle a 18 ans. Et sa mère va très mal réagir. Or, le personnage de la mère, c'est une femme formidable, elle s'appelle Aliénor, elle a 74 ans, elle monte encore en Amazon à cheval tous les jours, et c'est elle qui a tenu le domaine pendant toute sa vie, et elle est pas snob du tout. C'est pas du tout parce qu'elle épouse un journalier, quelqu'un de pas, parce que ça, c'est pas son problème, bien qu'elle vienne d'une très 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 grande famille.
Elle aussi, oui.
Mais on sent qu'elle en veut à sa fille, et puisqu'il y a même une scène où elle dit à sa fille « je ne vous aime pas ». Ce qui est quand même difficile à entendre pour une fille. On sent que ça cache quelque chose. Il y a quelque chose qui l'empêche d'aimer cette fille. Sa fille. Mais on ne sait pas quoi. Mais on sent qu'il y a une... Et j'ai tous les personnages, j'ai essayé d'installer cette espèce d'ambiguïté. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi elle est comme ça? Parce que, vous savez, je pense que quand on écrit un roman comme ça, une saga quand même, c'est que l'action doit venir de l'intérieur des personnages. C'est pas rocambolesque, c'est pas, vous voyez, c'est le personnage qui porte en lui son drame. Est-ce que le drame va sortir ou pas? Et Aliénor, elle porte un lourd drame en elle. Et l'arrivée des deux enfants à Berléac, ces deux enfants qui sont totalement innocents.
India et Louis, qui sont les deux enfants de Muriel
qu'elle a eu
avec... a vécu cette histoire d'amour avec ce journalier, du coup, a été banni, exclu du domaine. Et puis voilà, un beau jour, elle revient, et avec ses deux enfants, qu'Aliénor, au départ, ne veut absolument pas voir...
Ouais. Qu'elle recueille, parce qu'elle ne peut pas les laisser devant la grille du château. Elle les recueille, mais elle ne veut absolument rien avoir à faire avec eux. Or, ces deux enfants, justement avec ce qu'ils ont en eux, de curiosité, d'innocence et en même temps une sorte de rectitude. C'est des enfants qui se tiennent très bien à l'intérieur, qui ont été façonnés par leur mère déjà. Ils vont tout faire exploser parce que ils vont poser les questions qu'il faut pas poser, ils vont bousculer les codes, Ils vont même interloquer la grand-mère qui, face au petit Louis, elle est complètement désarçonnée.
Ce qui m'a frappé, ce que vous montrez bien aussi, c'est la fierté que partagent ces familles de leur domaine, de toute l'histoire qu'ils portent et du savoir-faire du vignoble.
Ah oui, ça c'est... Moi, ce que je retiendrai de tous ces séjours dans le Bordelais, c'est ça. La passion pour le raisin, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment qui dorment au pied des vignes, mais c'est pas une image qu'on vend aux journalistes. Ils sont en train d'inventer mille moyens, ils plantent des mini-éoliennes pour brasser l'air, pour qu'il y ait un ou deux degrés de plus.
Pour lutter contre les atteintes du gel, bien sûr.
Et ce qui est aussi formidable, c'est que c'est le raisin qui va décider s'ils vont être riches ou pas. C'est pas eux qui décident, mais c'est la récolte. Ils sont dépendants de ces grappes de raisins, vous voyez. Et donc, il y a une interaction entre les hommes et la nature qui est formidable.
Mais alors, au sein de ces familles, il y a aussi le côté plus sombre, à savoir les rivalités, notamment entre les héritiers, parce qu'évidemment, au fur et à mesure, des héritages se morcellent. Là aussi, vous racontez bien, c'est également pour vous une source formidable d'histoire.
Oui, parce que c'est toujours pareil, c'est Balzac, hein. C'est la cupidité de l'homme face à la grandeur de l'âme. J'ai pris le prix de l'hectare en 2010. Un hectare d'un vin, un bon vin. Oui. On va enlever les grandes stars, hein, Angélus, Cheval Blanc, Ikem. Bon, ça, alors là, on a atteint des prix. Mais un bon vin, en 2010, coûtait 1 million l'hectare, 1 million d'euros, si vous le vendiez. Or, en 80, ça devait coûter, je sais pas moi, 100 000 ou 50 000 euros, vous voyez. Parce qu'il y a eu toute une culture du Bordeaux qui a été développée par cet Américain Parker, qui a fait ce fameux guide Parker qui classait qui donnait des notes au vin tous les ans.
Vous évoquez aussi dans le roman.
Oui, et qui en 82 a parié sur le vin de Bordeaux et qui a lancé le vin de Bordeaux aux États-Unis. Et c'est devenu, c'est du pétrole maintenant. Ils cultivent du raisin, mais c'est du pétrole. Ils sont devenus richissimes. Alors quand il y a quatre héritiers, ben il y en a un qui doit s'occuper de la vigne, et puis les autres sont dédommagés. Alors avec une très très belle propriété
à Bordeaux,
au
Cap Ferré,
qui est quand même l'endroit où il faut avoir une propriété. Ou alors ils avaient acheté avec l'argent qu'ils commencent à gagner, ils achetaient des immeubles à Paris ou des théâtres ou des machins. Et alors ils ont dédommagé certains. Et puis mais après il y a les petits enfants qui sont arrivés. Et alors là, ça devient un casse-tête. Et là, qui résiste quand on lui propose vraiment de racheter sa part quand ça peut valoir 10 millions d'euros, vous voyez, c'est compliqué. Hein.
Et avec le risque pour ces familles donc de perdre la main.
Et de perdre la main, exactement.
C'est comme ça qu'il y a beaucoup de...
Voilà, c'est pour ça qu'il reste encore à peu près 50% de propriétaires d'origine et 50% qui ont été rachetés par des grands groupes comme Bernard Arnault, LVMH, Pinot, Carrefour, L'eau écarlate.
et avec là aussi une espèce de guerre entre les anciens et les modernes que vous montrez très bien ici, qui est incarnée par deux des héritiers de la famille Berléac, Frédéric et François. D'un côté, il y a la tradition, vraiment travailler sur le domaine, posséder ce savoir-faire. Et de l'autre, c'est incarné par François, se dire mais il faut dépoussiérer tout ça, il faut du marketing, de la communication.
Absolument.
C'est une réalité aussi.
Ah oui, tout ça. Mais tout ce que je raconte, c'est vrai. Alors, pour avoir tous ces renseignements-là, il faut aller fureter du côté des avocats, qui vous racontent des histoires formidables, des notaires, qui sont au courant de tous les secrets.
Mais qui normalement ne doivent pas parler.
Oui, mais.
Sont restreints.
Alors, ils ne donnent jamais de nom.
L'obligation de confidentialité.
Ils ne donnent jamais de nom. Hein.
Ouais.
Non, ils ne donnent pas de nom. Et comme moi, je ne connaissais pas ces familles, ce n'était pas très gênant. Vous voyez, ils pouvaient me raconter une histoire, je n'allais pas dire ah oui, c'est les machins. Quoi. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. J'étais innocente, donc ils pouvaient me parler. Donc, j'ai eu beaucoup de renseignements comme ça.
Alors après, il y a votre savoir-faire de romancière, c'est-à-dire que là-dessus, sur toute cette réalité, vous greffez vos personnages avec toujours votre art du portrait. Et je me disais, mais comment les façonnez-vous ? Par exemple, quel est le premier de tous vos personnages qui s'est imposé à vous ? Qui serait peu pour vous le personnage qui est devenu le personnage pivot, en quelque sorte ?
Ah ben, je crois que c'est Aliénor.
Oui.
C'est cette vieille dame intrépide, très courageuse, parce qu'elle a été quand même... elle est la clé de voûte de l'histoire, en fait, ouais. Aliénor.
Et la clé de voûte aussi du domaine.
Et la clé de voûte du domaine, et voilà.
La gestion, puisque son mari est décédé assez rapidement.
Ouais. Donc, je pense que c'est Aliénor qui est arrivée la première. Mais c'est pas celle qui arrive la première dans l'histoire. Parce que pour ça, je vous dis que la première scène est toujours très bizarre. Après, il y a eu Ambroise... Parce que j'ai quand même
son fils,
qui donc a 48 ans, elle a 74 et lui il a 48. Et j'ai beaucoup aimé le couple qu'ils forment, la mère et le fils, parce qu'ils sont à la fois très puissants et très drôles. Et très honnêtes l'un envers l'autre. C'est-à-dire que...
Les échanges sont souvent assez cash.
Quand il lui apprend qu'il est amoureux donc, de sa seconde femme et que vraiment il va l'épouser, il va divorcer sur le champ et qu'il ne peut plus attendre et qu'il est juste amoureux.
Qui est un mannequin.
Donc,
il n'a rien à voir avec ce milieu du Bordelais.
Exactement. Et Aliénor répond à son fils, quand il lui dit qu'il est très très amoureux, elle dit « c'est comme ça que t'appelles tes érections ». Et c'est comme ça, et ils ont une espèce de dialogue à la Audiard sans arrêt tous les deux, alors qu'ils sont tout ça en se vouvoyant et en mettant quand même de belles manières. Et j'ai beaucoup aimé leur rapport. C'est parti surtout d'Aliénor et Ambroise. Après, il y a eu Muriel.
Bien sûr. Oui. La sœur d'Ambroise et fille d'Aliénor, et qui est cette fameuse mariée qui portait des bottes jaunes. Et alors du coup, en vous écoutant et en vous lisant, je me dis que c'est quand même les femmes sont souvent les personnages les plus puissants dans cette histoire. Et c'est le cas aussi justement dans ces grandes familles bordelaises ou pas ?
Alors, il y a de plus en plus de femmes, parce qu'ils avaient un certain retard à Bordeaux, mais maintenant il y a de plus en plus de femmes qui sont chefs de culture, œnologues. Et puis, les propriétaires, il y a souvent des femmes aussi. Il y a même un château, je crois, où il n'y a que des femmes. Elles sont trois sœurs et elles mènent le château tambour battant. C'est un peu l'image de la société actuelle. Les femmes prennent leur revanche et montrent qu'elles peuvent être puissantes et intelligentes et belles.
Et puis, ces deux enfants, donc, dont on a déjà parlé, India et Louis, qui vont un peu faire exploser tout ça. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, ce sont ces générations-là.
Oui.
On est sur plusieurs générations, des personnages qui les incarnent. Ouais. J'imagine que pour vous, c'est aussi une forme de jubilation, de créer
ces
personnages avec des profils aussi différents, appartenant à des générations différentes.
Oui, et puis ça m'oblige à être très attentive à ce qui se passe autour de moi, voyez. Ça m'oblige à parler à des enfants, à fréquenter des enfants, à m'entourer de jeunes qui voient la vie très très différente de nos générations. Ça m'oblige à m'intéresser à tout et à voir le point de vue des autres, tout le temps. C'est ça qui se passe, en fait. Donc je me mets toujours dans la peau du personnage, je rentre dans sa peau. C'est comme si j'étais... un jour j'avais interviewé Cary Grant, et j'avais dit « Comment vous faites pour incarner vos personnages ?» Ah, il m'avait dit « C'est très très simple. J'arrive sur le studio, je mets le costume du personnage et je suis le personnage. » Et quand on voit comment il joue, on y croit à chaque fois. Et je pense qu'un écrivain, enfin pour moi, c'est aussi ça, quoi. Quand je suis dans une scène, je fais tous les personnages, mais à chaque fois je remets le costume et je suis le personnage. Je ne mélange pas les deux têtes, quoi. Et c'est ça qui est très fatigant, je pense, quand on écrit. On est très fatigué quand on écrit le soir, on est épuisé. Et si je fais la fête toute la nuit, je ne pourrais pas écrire le lendemain, parce qu'il faut une vraie force physique. Parce que justement, on passe son temps à changer de costume et à passer à un autre personnage.
Mais alors, pour endosser ces costumes, et leur donner chair à vos personnages, est-ce que vous allez chercher des détails dans les gens de votre entourage? Voilà, comment les créez-vous?
Alors, je pique à tout le monde, ça c'est sûr, et je marque tout ça, je le marque sur un petit cahier avec des flèches. Quand je suis en train d'écrire, le donner à Louis, le donner à Muriel, le donner à... Et puis quand je sens que ça peut rentrer bien, justement c'est un accessoire qui peut rentrer bien dans le personnage, hop, je le place. Mais je prends énormément dans le quotidien les attitudes, les réactions, les répliques, tout ça, ça vient du quotidien. On est des voleurs.
Parmi tous ces personnages, on a parlé d'Aliénor qui est un peu le personnage pivot, qui a tout lancé, mais est-ce qu'il y en a un ou une pour laquelle vous avez une affection toute particulière?
Alors,
c'est difficile pour celle qui les a créés, mais est-ce qu'il y a un chouchou? Ou pas.
Mais les deux enfants.
Oui.
Dès que les enfants arrivaient dans une scène, dès que je les voyais arriver dans la scène. Parce que quand vous écrivez une scène, il faut que vous ayez en tête pratiquement celle qui va suivre. Pour que vous puissiez poursuivre l'ampleur de ce que vous venez d'écrire. Ou alors vous faites carrément une rupture de rythme, mais ça redonne de l'ampleur, justement, du rythme. Mais quand je sentais que la scène allait déboucher sur India et Louis, ou sur India ou Louis, parce qu'ils ne sont pas toujours ensemble, là je jubilais. Quand je sentais qu'Aliénor allait arriver, je savais qu'il allait avoir de la réplique, de la grandeur et quelque chose de profond parce que c'est quelqu'un de très tourmenté en fait, Aliénor. Donc bon, les quatre c'était Ambroise, mes chouchous, hein, Ambroise, Aliénor, India et Louis. Après j'aime beaucoup Muriel, mais qui est plus difficile à connaître au début. Moi j'ai mis du temps à savoir comment elle était. Alors ce qui est drôle, c'est que maintenant dans ma tête, elle continue à se développer, Muriel.
Ah oui.
Elle devient de plus en plus... J'ai des flashs de scènes que je pourrais faire avec Muriel. Et puis...
On pourra faire plus tard une réédition enrichie, voilà, comme on dit, selon la formule traditionnelle.
Il y en a une avec...
Alors moi, je peux vous dire, moi, je les aime tous, mais... Enfin, tous plus ou moins, parce qu'il y a quand même un peu des salauds dans cette histoire. Mais j'ai une affection toute particulière pour Nanny.
Ah oui, Nanny. Oh là là, Nanny.
Racontez-nous Nanny.
Nanny, en fait, c'est ma grand-mère, Nanny. Moi, j'avais une grand-mère qui venait des Basses-Alpes, qui était une paysanne. Et ma grand-mère, quand j'étais petite, on allait passer les étés chez elle, dans sa ferme. Et la plaque tournante de la maison, c'était ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elle réparait tous les pantalons déchirés, elle nous consolait, elle nous faisait des tartines épaisses de crème et de miel, de crème fraîche, elle faisait des blanquettes à tomber par terre, et elle avait un bon sens. Et du coup, on lui racontait tout. Elle était bien plus au courant que nos parents. Et d'ailleurs, quand quelqu'un disait, vous savez, passer un tel, demander, elle s'appelait Berthe. Demandez à Berthe, elle doit savoir. Les chagrins d'amour, les mauvaises notes en classe, et elle sait tout, absolument tout. Donc, elle parle pas.
Comme la Nanny, donc, château des Berléac, qui est quoi, qui est la gouvernante.
La plaque tournante, oui, la gouvernante, sens, oui, de la maison.
Intendante,
ouais. Et qui a suivi tous les.
Et tout le monde se confie et qui.
Qui suit tous les bonheurs et les malheurs. Et elle sait tout, elle.
Là, on arrive sur un terrain un peu délicat, il ne faut pas spoiler, mais ce qui donne aussi toute sa puissance à votre intrigue, c'est que les trames, les rivalités, voilà, qui vont se développer dans ce roman, trouvent leur source dans ce qui s'est passé pendant l'occupation. Comment ça s'est imposé à vous, ça, d'aller remonter dans ce passé aussi lointain et qui donne les clés du présent, de ce qui se passe en 2010 au sein du domaine de Berléac?
Alors ça, c'est encore un mystère. Vous voyez, quand même, on sent... Quand on écrit, on sent beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout expliquer. Pourquoi le titre, par exemple ? J'étais sur la route, j'allais avec mon chien chez le vétérinaire pour qu'il ait son rappel de vaccin annuel. Il pleuvait, j'étais en Normandie, donc...
J'étais loin d'une barrière et de bottes jaunes.
Oui, champ de betterave à droite, champ de betterave à gauche. Je conduis, et tout d'un coup, paf, ça tombe comme une pancarte dans ma tête, la mariée portait des bottes jaunes. Alors je me dis, mais pourquoi ? Et en même temps, j'adore tout de suite, hein, je me dis, j'adore ce titre. Eh bien... C'est pour tout pareil. Pourquoi tout d'un coup là ? Alors c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de châteaux avec des tours, des donjons. Peut-être que j'ai pensé aussi à La vie de château. Vous savez, ce film de Rapneau. Peut-être que j'ai... Vous voyez, peut-être après, dans la tête, ça fait des circuits.
Mais ça ne part pas, par exemple, de faits qui se sont réellement produits sous l'occupation dans le vignoble bordelais.
Non. C'est ça que j'ai inventé.
Justement, le titre, je voulais en reparler avec vous. C'est vrai que vous avez le sens du titre quand on regarde vos livres précédents. Et bon, donc là aussi, en fait, c'est quelque chose
ça
qui
c'est,
reste expliqué.
Il y a beaucoup de choses qui sont quand même inexplicables. Ouais. Je ne sais pas, ça. Ou alors, c'est à force de baigner dans la littérature, je ne sais pas.
Mais en tout cas, on se souvient des yeux jaunes des crocodiles. J'allais vous dire, mais le jaune, c'est un peu votre couleur ou votre adjectif fétiche, non ?
Alors, non, pas tellement, mais c'est parce que... Après, il y a aussi la phonétique du titre. La mariée portait des bottes rouges. And so what, quoi, on s'en fiche. La mariée portait des bottes noires. Bien, tout le monde a des bottes noires. La mariée portait des bottes bleues. Bon... Les bottes vertes, alors des bottes jaunes, oui, ça. Et puis c'est les bottes de marin-pêcheur, quoi. Et elle se marie en bottes de marin-pêcheur. Elle se marie pas avec des jolies petites bottes jaunes de chez Tartempion.
Et ça dit tout déjà.
Et ça dit tout.
Du personnage.
Et
Muriel.
Puis le jaune au Moyen Âge, c'était la couleur de la désolation, du chagrin, de la mélancolie. Or quand Muriel Marie, pour la seconde fois, elle veut pas se marier, en fait. Elle se marie contre son cœur et elle manifeste son chagrin avec ses bottes jaunes.
D'avoir perdu son Lewis, son journalier, ouais, avec lequel elle a vécu une grande histoire d'amour. L'oncle Édouard, il vous a lu ?
Ah, j'ai peur, il est pas bon sorti. C'est pour ça que je m'excuse. Voilà, c'est typique, ça. Je prends vraiment un brave homme, vraiment une patte d'homme qui existe dans la réalité.
Donc, il est l'un de vos oncles ?
Qui est un de mes oncles. Et j'en fais un personnage un peu quand même fallot, quoi, un peu lâche, un gros lâche, un peu obsédé que par son nombril, qui est un rentier, qui a jamais travaillé de sa vie, ou une fois, ça s'est mal passé. Et pourquoi ? Alors, il y a le physique de l'oncle Édouard qui est arrivé dans ma tête, qui était un peu empâté, un peu rose. Vous voyez, peut-être que petite fille, j'avais envie de lui faire du mal.
Vous reprenez dans votre personnage.
Elle était rose, j'avais envie de lui faire du mal, le piquer avec des aiguilles. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Et c'est lui qui est arrivé dans ma tête. Donc c'est pour ça que je m'excuse à la fin du livre, parce que je me dis le pauvre si.
Mais en prenant le même prénom.
Mais oui, il s'appelle Édouard.
Ah oui, quand même.
Ah oui, c'est pour ça. Mais je me suis excusée. Hein.
Mais vous lui avez envoyé le livre avec une dédicace, non ? Vous attendez de voir ce que ça va donner. La mariée portait donc des bottes jaunes. Enfin, le donc, c'est moi qui le rajoute. Hein. La mariée portait des bottes jaunes. Votre nouveau roman, Catherine Pancol, publié chez Albin Michel. Un roman à lire tout en dégustant avec modération un excellent grave.
Oui,
un grand grave.
Un grand grave, oui.
Puisqu'on ne l'a pas dit, le domaine, le château de Berléac est situé dans la zone d'appellation des fameux graves.
Et vous savez pourquoi on appelle un vin grave ? C'est le sol est fait d'argile et de gravier. Le gravier emmagasine la chaleur du jour et la restitue la nuit, ce qui fait que le vin a ce goût spécial de grave.
Merci Catherine Pancol. Voilà pour cette interview RTL exceptionnelle de Catherine Pancol, réalisée à l'occasion de la parution de son roman La mariée portait des bottes jaunes. Si vous avez aimé cet épisode hors série de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter aussi sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est également à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.